Décryptage, Marie Cazadebey.
C'est la fin de 4 mois d'un procès historique en Espagne, celui de 12 indépendantistes catalans accusés d'avoir participé à une tentative de sécession de la Catalogne fin 2017. Le 1er octobre, le gouvernement régional soutenu par le Parlement local organise un référendum d'autodétermination pourtant jugé anticonstitutionnel. 3 semaines plus tard, le Parlement catalan déclare l'indépendance. Elle sera de courte durée. Le gouvernement de Madrid reprend la main et place la Catalogne sous tutelle. Cette crise avait profondément divisé l'Espagne. L'annonce même de ce procès aussi. Alors qu'ont apporté ces 4 mois de débat devant la Cour suprême à l'écriture de l'histoire de l'Espagne? Que faut-il retenir de ce procès en attendant les sentences? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Zoraida Carandel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes hispaniste, spécialiste de la civilisation espagnole contemporaine, directrice de la collection Regards sur l'Espagne contemporaine des presses Paris-Nanterre. Et nous sommes au téléphone avec Joaquín Luna, journaliste espagnol à La Vanguardia, édité à Barcelone, que l'on va retrouver donc dans un instant. Zoraida Carandel, rappelons peut-être d'abord qui comparaissait lors de ce procès inédit en Europe. Est-ce qu'on peut dire finalement c'est une grande partie du gouvernement indépendantiste catalan?
Oui, bien sûr. C'est une grande partie du gouvernement indépendantiste catalan, à l'exception toutefois notable de Carlos Puigdemont, qui se trouve toujours en Belgique. Et donc, ce sont notamment le vice-président, Oriol Junqueras, d'importants conseillers de ce gouvernement, la présidente du Parlement, Carme Forcadell, qui se sont aujourd'hui trouvés depuis 4 mois devant la Cour suprême espagnole. Et ils ont eu, à l'instant, un droit de réponse avant la fin de cette audition.
C'est ça le caractère aussi inédit de ce procès, qu'il y ait quasiment tout un gouvernement régional. On avait rarement vu des personnalités politiques de ce rang se retrouver à la barre des accusés.
Tout à fait, c'est une situation absolument inédite et c'est pourquoi on parle de la crise la plus importante que l'Espagne démocratique d'après 75 ait connue.
Joaquín Luna, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on parle d'un procès historique. Est-ce que la couverture médiatique de ce procès l'a été tout autant?
Oui, il faut faire la partager entre les moyennes de la Catalogne qui ont suivi chaque jour les procès et, je dirais, les moyennes espagnoles qui ont été plus sélectifs au début, certaines déclarations et surtout hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès. Oui.
Le procès a été filmé, retransmis. Il était possible de le suivre au jour le jour, peut-être sur Internet, Joaquín Luna?
Non, il a été possible dans deux chaînes généralistes, deux chaînes de la télévision publique de la Catalogne et une chaîne de la télévision publique espagnole tous les jours full time. Alors il n'y a eu pas mal de temps pour voir. Ça a été la première fois en Espagne qu'on a eu ça.
Est-ce que ce procès fauve a passionné les Espagnols? Alors commençons peut-être par les Catalans, Joaquín Luna. Est-ce que vous avez senti vraiment un intérêt de bout en bout? 4 mois, c'est long évidemment.
Je dirais pas tous les 4 mois, parce qu'il y a eu des semaines où les choses étaient plus légales et pas assez intéressantes, mais à la fin, j'ai crainte qu'on est comme au début. Il y a à moitié de la Catalogne qui est convaincu que les 12 politiciens n'ont rien fait, et une autre moitié de la Catalogne qui croit que les faits ont été dans certaines gravités. Et c'était logique d'avoir un procès comme ceci. Tout le monde fait des spéculations sur les verdicts, mais pour l'instant, la mauvaise chose pour les prochaines années, c'est que chacun a resté, je crois, dans ses positions. Et je veux dire très clairement que ce n'est pas un conflit seulement entre l'Espagne et la Catalogne, c'est à la Catalogne, il y a moitié de la population, un peu comme les Ulster dans les tons pas très jolis du Nord d'Irlande.
Oui, on va venir tout à l'heure aux effets justement de ce procès sur les divisions, alors à l'intérieur même de la Catalogne et plus largement en Espagne. On parlait tout à l'heure des accusés, ils sont 12. Le grand absent, vous l'avez dit tout à l'heure, Zoraida Carandel, c'est Carles Puigdemont, l'ancien président de la région, qui vit donc en exil pour échapper aux poursuites depuis 2018. Il avait été arrêté en Allemagne, mais la justice allemande avait refusé son extradition vers Madrid, estimant qu'il ne pouvait être poursuivi pour rébellion. On l'écoute à l'époque.
Le fait que je suis un homme libre, que peut parcourir tout le monde, excepté l'Espagne, que j'ai été relâché par un tribunal allemand, montre qu'il y a effectivement un double standard et qu'il y a un manque d'engagement de l'état de droit à l'Europe dans le système judiciaire espagnol. Comment est possible que moi, qui j'étais arrêté, que j'étais passé sur un tribunal allemand et qu'il a rejeté, à partir de mêmes évidences, et acquitté de cette responsabilité de rébellion, et tous mes collègues qui ont été sous mes ordres, parce que j'étais le responsable de ça, doivent me faire face pour le pire crime qu'il y a dans le code pénal espagnol de rébellion.
Zoraida Carandel, Carles Puigdemont, qui dit que d'ailleurs il est le principal responsable. Est-ce que son ombre a plané sur ces 4 mois de procès?
Bien entendu qu'il a été très présent dans les esprits, ne serait-ce que parce qu'il s'est porté candidat. Et d'ailleurs, il est devenu député européen. Donc, il est resté très actif dans la vie politique en Catalogne. Cela dit, l'attention, en l'absence de Carles Puigdemont, s'est portée sur le vice-président Oriol Junqueras et sur la présidente du Parlement, Carmen Forcadell de préférence. Et dans sa déclaration, quand il parle de délit de rébellion, cela est signé significatif parce que le délit de rébellion suppose le recours à la violence et c'est un point de désaccord entre l'accusation du parquet qui considère qu'il y a délit de rébellion et l'accusation de l'avocat de l'État qui parle de sédition et de malversation et de désobéissance grave. Ce sont des délits passibles de peines de prison beaucoup plus légères et dans le cas de la désobéissance de peut-être être même une amende et simplement de l'inéligibilité. Donc on parle d'accusations très différentes et dans sa déclaration, Carles Puigdemont met bien en avant le délit le plus grave qui pourrait être prononcé, qui est celui de rébellion. Alors donc ça, avec recours à la violence.
Ça c'est le parquet, hein, c'est sa thèse finalement, hein, que oui. Cette tentative de sécession soit constitutive d'une rébellion. Sur quoi a-t-il fait reposer ses arguments? Vous parliez effectivement du recours à la violence. C'est ça aussi qui a beaucoup animé les débats.
Alors le recours à la violence, tout dépend de ce qu'on entend par violence. Et donc la question de la violence a été très largement débattue. Est-ce qu'il y a, il n'y a pas de violence armée? Cela a été mis en évidence. Il n'y a pas eu une violence armée dans les rues de Barcelone contre les forces de l'ordre venues de Madrid. Mais il y a eu un appel. Ou alors, cela fait partie des idées de l'accusation, l'idée d'un appel à l'insurrection dont les accusés seraient en partie responsables. Et toute la stratégie de la défense là maintenant, ces derniers jours, a consisté à montrer ou à dire qu'il n'y a pas eu d'appel à l'insurrection et que les responsables du gouvernement ne sont pas à l'origine des débordements qui ont pu exister et qui ont été constatés. Donc là, peut-être, il est possible que cette stratégie qui a conduit d'ailleurs les avocats à condamner ces débordements puisse ne pas satisfaire les secteurs les plus virulents des indépendantistes qui, pour certains, notamment au sein de la CUP, appellent à une insurrection populaire.
Donc, Joaquin Nunez, ça veut dire que les débats qui étaient au sein même de la salle d'audience de la Cour suprême, rébellion ou sédition, il y a eu les mêmes finalement à l'intérieur même du mouvement indépendantiste.
Oui, je dirais oui, mais de plus en plus, on a l'impression que dans cet mouvement, qu'il y a trois partis, il y a entre, clairement, les partis Esquerra, qui est le parti du vice-président Oriol Junqueras, qui est de plus en plus fort dans les...
Joaquin Luna, Ah, on a perdu Joaquín Luna. On va le retrouver tout à l'heure. Recours à la violence ou non, en tout cas pour l'avocat du gouvernement espagnol, les faits ne sont pas assez évidents pour pouvoir parler de rébellion, donc il parle de sédition. Est-ce que c'est un geste donc du Premier ministre Pedro Sanchez, puisqu'entre les faits en 2017 et aujourd'hui, le gouvernement a changé de couleur, la stratégie du gouvernement envers les indépendantistes n'est pas du tout la même. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un geste du gouvernement espagnol envers les indépendantistes qui se projettent finalement à l'après-procès?
C'est l'accusation qu'ont porté certains partis, et notamment le Parti Populaire et Ciudadanos. Ils ont porté cette accusation. Cependant, le pouvoir judiciaire est indépendant en Espagne. Donc, ce serait contester l'indépendance du pouvoir judiciaire que de dire que les juges seront sensibles à la couleur du gouvernement au moment de porter leur verdict sur ce qui s'est passé le 1er octobre. Mais ce qui est certain, c'est que les accusations de politisation du procès ont été faites par différents partis, pas seulement par le Parti Populaire, mais aussi par les indépendantistes qui ont considéré que le procès était une farce, que tout autre verdict que leur innocence serait inadmissible. Donc on a là bien sûr des accusations qui sont faites. Cela ne signifie pas qu'elles soient nécessairement fondée.
Pour l'avocat d'Oriol Junqueras, le parquet confond donc rébellion et désobéissance, et les indépendantistes crient au procès politique, comme le font d'ailleurs leur soutien, notamment ce 1er février dernier à Barcelone.
Que l'on soit aux portes d'un procès est en soi un fait que nous ne pouvons tolérer.
Ce n'est pas un procès politique, mais un procès contre la démocratie, parce qu'aujourd'hui, c'est contre les indépendantistes. Mais la prochaine fois, ce sera contre quelqu'un qui a des idées différentes.
Avec ce procès, on va visualiser de façon très forte que l'État espagnol est en train de convertir, de transformer un droit en un délit. Un référendum n'est dans aucun cas peut être considéré comme un délit de l'ordre du code pénal.
Alors on a retrouvé Joaquín Luna à Barcelone. Oui. À l'ouverture du procès, Oriol Junqueras avait déclaré être accusé pour ses idées et pas pour ses actes. Question éminemment sensible dans un pays que cette crise a profondément divisé. Est-ce que la question du procès politique a été centrale dans ce procès?
Oui, tout à fait. Non, ici, je crois, à mon avis, le problème, c'est qu'il y a un mouvement qui croit que les idées sont au-dessus de la loi. Et alors, si vous avez vous êtes convaincu que les lois sont pas justes et injustes, sont injustes, alors vous avez les comparaisons avec les mouvements pour les droits des Noirs aux États-Unis de Luther King. Vous avez les comparaisons faites par l'indépendantisme avec Nelson Mandela. Et ça, c'est à mon avis un peu le problème, non? Une part de la population de la Catalogne croit qu'il a droit à faire un référendum d'autodétermination, qui est son droit, et qui croit que ce droit est au-dessus de la Constitution espagnole, des lois, des lois propres de la Catalogne, et à mon avis, ça, c'est le problème. Pour l'indépendantisme, il ne comprend pas que ça, c'est pas les chemins. C'est un choix, à mon avis, qui est un choix dangereux, qui porte seulement à ce procès et à cette situation qui n'est pas bonne. Parce que pour l'indépendantisme, l'Espagne, c'est comme la Turquie. Et il y a pas mal de Catalans et surtout la plupart des Espagnols qui pensent que ce n'est pas juste d'écrire l'Espagne de siècle 21e siècle avec l'Espagne il y a des Franco qui est mort déjà 40 ans déjà, non.
Zoraida Carandel, comment les accusés justement ont présenté les faits lorsqu'ils sont revenus sur cette période-là, sur la tenue de ce référendum? Comment ils ont justifié être allés jusqu'au bout?
Donc là, on est, ce qui a été fait ces derniers jours, c'est qu'ils ont en quelque sorte rétro-pédalé, parce que ce qu'ont dit les avocats défenseurs, c'est que il n'y avait pas eu véritablement de déclaration d'indépendance. Ils savaient très bien que cela ne pouvait pas se faire véritablement. Il y a une sorte de retour en arrière, probablement pour les besoins de justifier l'action des différents membres, des différents conseillers de gouverne. Donc, plutôt qu'une justification de leurs actes, il y a eu une tentative de montrer qu'ils n'ont pas désobéi ou alors simplement en ne répondant pas aux demandes, aux lettres de la Cour suprême, qu'ils n'ont pas véritablement désobéi et qu'ils ont ils essaient aussi, et c'est la conclusion d'aujourd'hui, de leurs interventions dans leur droit de réponse de cet après-midi, ils essaient de remettre le débat sur un plan politique en disant que c'est uniquement un problème politique et que c'est à travers la politique qu'il faut répondre à ces questions. Mais voilà, donc il y a une sorte de retour en arrière.
L'un de ces moments clés, des moments clés de ce procès, c'est le témoignage de Mariano Rajoy, le Premier ministre. Au moment des faits, le 27 octobre, son gouvernement avait décidé d'activer l'article 155 de la Constitution pour reprendre la main sur la Catalogne. Son président et son parlement avaient été destitués. Mariano Rajoy a dû s'expliquer sur son choix, donc à la barre.
Dialoguer avec des gens qui ne veulent parler que d'une date pour en finir avec la constitution espagnole et la souveraineté nationale n'était tout simplement pas possible, en tout cas pas pour moi. J'étais franchement préoccupé. Alors pour la première fois de l'histoire, nous avons mis en marche l'article 155 de contrôle de la région, un article qui est prévu pour des situations limites.
Joaquín Luna, cette crise avait fait apparaître vraiment un dialogue de sourds entre le Premier ministre et le gouvernement catalan, des camps solidement incampés sur leur position. Est-ce que c'était aussi le cas durant ces quatre mois où vous avez senti la sérénité aussi des débats, la possibilité d'exprimer des positions, on le sait, très, très différentes?
Je pense que dans tout moment, il n'y a eu aucun problème pour s'exprimer chacun sur son aspiration. À mon avis, le problème, c'est toujours quand il y a eu, c'est une chose très ironique. Maintenant, les dirigeants catalans qui sont au procès, ils disent, et la plupart des partis indépendantistes, ils disent que tout a été une blague. C'était pas une chose sérieuse, c'était seulement pour négocier dans les prochaines années. Et il y a l'Espagne, le gouvernement espagnol, la justice espagnole, qui disent non, vous étiez très sérieux. C'est-à-dire, on a changé, c'est ironique, non? On a changé les papiers, les rôles de chacun, mais j'espère que malgré les sentences, on va s'engager dans un vrai dialogue entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan. Mais il faut attendre les élections catalanes pour savoir qui est le leader du mouvement, parce que ce mouvement, un des problèmes était toujours en cacophonie. Il n'y a pas un leader pour négocier. Et chacun a ses intérêts et pas tout le temps les mêmes intérêts. Chaque parti de grands partis indépendantistes ont toujours été en rivalité, et cette rivalité, je crois, qu'a fait aussi difficile de dire qui est au téléphone, qui dois-je appeler. Oui. Et je pense que le gouvernement de Pedro Sánchez, je crois qu'il a une sincère préoccupation, un sincère désir de s'engager dans un dialogue, mais l'indépendantisme n'est pas dire comme dans il y a deux ans, référendum oui ou rien. Non,
merci.
Non, tout ou rien, c'est
merci,
fini.
Merci Joaquín Luna, on sera bien obligé d'attendre l'automne pour avoir donc les sentences, savoir à quelle sauce donc on va tout manger ces 12 indépendantistes. Merci Zoraïda Carandel d'avoir été avec nous.
Merci
à vous. Professeur à l'université Paris-Nanterre. Merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Emmanuel Sevin, Laurence Arniguet et David Brockway.